Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Chaudard, le 10 novembre 1987.
Nous avions commencé à voir que c'est l'expérience de l'adoration qui nous permet d'entrer dans l'éthique religieuse. C'est vrai, il y a toute une série d'activités qu'on pourrait prendre, mais il me semble bien que c'est l'adoration qui va nous permettre d'entrer pleinement dans l'éthique religieuse. Voyez, faites le parallélisme. Comme pour l'éthique humaine, c'est l'amour d'amitié. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Avec l'expérience du devoir en second lieu. Mais surtout pas l'expérience du devoir en premier lieu. Vous n'en sortirez pas de Kant si vous mettez en premier lieu le point de vue du devoir. Du reste, l'impératif catégorique chez Kant s'appuie sur une attitude religieuse. Kant n'a jamais découvert une éthique humaine. Il n'a découvert qu'une éthique religieuse. C'est pas étonnant parce que Kant est croyant. Et il est luthérien. Je crois bien qu'il est luthérien. C'est pas calviniste, il est luthérien, Kant. Je suis luthérien. Kant pourrait dire ça, n'est-ce pas ? Or, en tant que luthérien, l'intelligence est complètement faussée. Donc, c'est l'attitude avec Dieu qui reste la seule vérité. Et on retrouve ça, si vous allez un peu plus loin, vous retrouvez ça même chez Descartes. La découverte de l'existence de Dieu est nécessaire pour pouvoir affirmer le jugement d'existence. Le jugement d'existence chez Descartes ne peut pas se comprendre en dehors d'une attitude religieuse. Et c'est très très curieux tout ça. Et tout ça, je crois que c'est très important pour nous de comprendre cela parce que ça, c'est l'ontologisme au plan de vue philosophique. C'est-à-dire que c'est seulement à partir de Dieu que je peux faire de la philosophie. Vous voyez bien la difficulté qu'on a de retrouver une véritable attitude philosophique quand, de fait, on est des théologiens. Suarez est un théologien. Il est de la compagnie de Jésus. Donc il ne peut être que théologien. Suarez est théologien. Et Suarez veut retrouver une philosophie à partir de la théologie. Et Descartes ne peut se comprendre qu'à partir de Suarez. Vous savez, Descartes n'a rien inventé. Il a poussé jusqu'au bout Suarez. Petit-fils de Suarez. Très belle thèse à faire. Descartes, petit-fils de Suarez. C'est vrai, ses professeurs étaient des Suareziens. Ses professeurs de philosophie, à la Flèche. Ils étaient suaréziens. Et Descartes ne peut se comprendre que dans la lumière de Suarez. Et c'est là où on voit ce que c'est que l'ontologie. Je dis ça, c'est parce que je crois ça très important pour nous, au point de vue de l'histoire de la pensée, c'est que l'idéologie athée naît à partir de l'ontologisme. Je sais bien que c'est ma thèse, ça. C'est ma thèse au plan philosophique. Je crois que personne ne l'a dit. Donc là, vous avez un filon extrêmement intéressant, hein, à bien creuser. Et j'ai voulu lancer un étudiant jésuite espagnol à Fribourg dans cette piste. Pour être sûr que ce soit bien ça. La thèse n'est pas parue parce qu'il était rappelé. C'est ce qui est terrible chez les religieux, n'est-ce pas ? L'obéissance passe avant la thèse de doctorat. Ce serait très ennuyeux pour les professeurs de philosophie. Il a été rappelé avant, à Madrid. Mais il est toujours à Madrid. C'est, je crois que c'est très important, vous voyez, de voir comment naît l'idéologie athée. C'est important pour nous, parce que dans une éthique religieuse, c'est très important, parce que l'idéologie athée, c'est la suppression complète d'une éthique religieuse. Or, je crois bien, je le mets à titre de thèse, c'est-à-dire à titre de recherche. Moi, j'en suis convaincu. C'est que l'idéologie athée naît en sept contrats de l'ontologisme. Parce que le grand slogan de toute idéologie athée, c'est de libérer l'homme. Or, l'ontologisme fait que l'homme, dans sa structure profonde, est relatif à Dieu. Nous nous disons qu'il est relatif à Dieu pour atteindre sa perfection. Donc, dans sa finalité. L'homme n'a pas d'autre finalité que Dieu. La finalité au sens absolu. L'ontologiste dit la structure de l'homme est dépendante de Dieu. C'est toute la différence qui existe. Mais si la structure de l'homme ne peut se comprendre qu'à partir de Dieu, vous comprenez très bien que l'homme en dehors de Dieu n'est rien. Passion inutile. Et on ne comprend Dieu que dans la lumière de Dieu. Ce qui est parfaitement vrai pour le regard de foi, mais pas pour le regard de la philosophie. Dire ça, c'est supprimer la philosophie. Et au fond, vous voyez, on retombe dans la position de Luther. Je ne peux comprendre la vérité qu'à partir de Dieu. Et je retombe dans la position de Descartes. Je pose Dieu comme celui qui va être le gardien de la vérité. Dieu est posé comme gardien de la vérité. Nous le verrons à propos de la théologie naturelle. Parce que c'est très intéressant, la position de Descartes à ce point de vue-là. Et ça montre ce que c'est que l'ontologisme. L'ontologisme, c'est que Dieu est nécessaire pour parler de l'homme. Je dois parler d'abord de Dieu pour comprendre ce que c'est que l'homme. À première vue, ça semble merveilleux, hein, comme c'est religieux. Eh bien, c'est terrible. Parce que ça supprime le point de vue de la pensée humaine. C'est une fausse exaltation de la foi. Luther, c'est une fausse exaltation de la foi. Et cette fausse exaltation de la foi supprime l'intelligence. On supprime l'intelligence pour exalter la foi. C'est un drôle de moyen. On coupe la branche sur laquelle on est assis pour exalter celui qui est assis sur la branche. Et vous savez ce que ça fait? Faites l'expérience. Asseyez-vous sur une branche, ayez une scie mécanique et coupez la branche. Vous ferez une chute de premier ordre. Si vous êtes élevé, vous casserez la jambe et à ce moment-là, vous comprendrez ce que c'est que de scier la branche sur laquelle on est assis. Il y a Luther, il fait ça. La foi présuppose l'intelligence. Et vous dites au nom de la foi que l'intelligence est corrompue. Donc vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis. Et alors, la réaction, on voit très bien en chaîne, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule philosophie, c'est l'ontologisme. Et l'ontologisme, c'est de dire justement que je ne peux définir le fini que par l'infini. Malbranche. Définir le fini par l'infini. L'infini, c'est Dieu. Donc, je ne peux regarder l'homme fini que dans la lumière de Dieu. Je ne peux parler de l'imparfait qu'à partir du parfait. Le parfait, c'est Dieu. L'imparfait, c'est moi. Et tout est comme ça. Donc, je ne peux regarder l'homme que dans la lumière de Dieu. Mais Dieu, comment le connaissez-vous? Si je suis croyant, je connais Dieu directement. Mais si je ne suis pas croyant, si je suis philosophe, comment puis-je connaître Dieu? Je connais le Dieu à partir de l'homme. Mais si je ne peux pas connaître l'homme qu'à partir de Dieu, voyez l'impasse. L'ontologisme, on est dans une impasse. Alors c'est pas étonnant qu'en face de ça, on comprenne l'attitude de l'idéologie athée qui dit « je veux libérer l'homme ». tautologisme. Mais les idéologies athées, c'est un ontologisme de gauche. Vous voyez, il y a un ontologisme de droite, c'est un ontologisme ecclésiastique. C'est celui de Malebranche. C'est celui de Descartes. C'est l'ontologisme de droite. Et il y a un ontologisme de gauche, ce sont les idéologies athées. Et j'ai parfaitement le droit de dire ça, comme on a dit qu'il y a un hegelianisme de droite et un hegelianisme de gauche. Parce que Hegel représente l'ontologisme poussé jusqu'au bout. Hegel le dit lui-même, que toute sa philosophie n'est qu'une argumentation ontologique de Dieu. Donc ceci, c'est pour que nous revenions à nos oignons, qui dans le cas, c'est le mystère de l'adoration. C'est de montrer que pour Kant, l'impératif catégorique est religieux. Et donc, il ne peut pas faire d'éthique humaine. L'éthique humaine repose sur une expérience qui est proprement humaine, typiquement humaine, l'amour d'amitié. Et le devoir, qui ne fait pas appel à Dieu. L'éthique religieuse repose sur l'expérience que vous avez de l'adoration. C'est pour ça que je pars et je crois que c'est ça. Alors on pourrait m'objecter, c'était ce qu'on vient de m'objecter il y a 3 minutes, mais comment se fait-il qu'Aristote n'ait pas parlé d'adoration et qu'il ait parlé de la contemplation? Regardez dans l'éthique à Nicomaque, chapitre 10, vous voyez qu'Aristote montre que la contemplation de Dieu, c'est le bonheur suprême. Le bonheur aplos, simpliciter, donc le bonheur absolu. Aristote dit deux bonheurs, un qui vient de l'amitié, l'autre qui vient de la contemplation. Quand Aristote parle de la contemplation, est-il en éthique humaine ou en éthique religieuse? Eh bien, je dis qu'il est dans l'éthique religieuse. Aristote n'a jamais nié l'adoration, mais il en parle en politique. C'est très curieux. Pour lui, l'adoration est liée à la liturgie. C'est intéressant, du reste. Et, au point de vue personnel, c'est la contemplation. Et là, je suis obligé, vous voyez, de reconnaître qu'il y a des choses qu'Aristote n'a pas vues avec suffisamment de netteté. Ce qui est tout à fait normal. Nous allons essayer de le comprendre. Parce que le problème de l'adoration, l'expérience de l'adoration, nous avons tous, j'espère, cette expérience religieuse de l'adoration. Mais comme nous sommes chrétiens, nous avons l'expérience de l'adoration à travers et dans le mystère du Christ. C'est-à-dire que nous avons l'expérience de l'adoration en esprit et en vérité. Cette parole que Jésus dit à la Samaritaine. En tant que chrétien, mon adoration est une adoration en esprit et en vérité. Ça, c'est vrai. Et mon adoration est en esprit et en vérité parce qu'elle est liée à celle de Jésus et de Jésus crucifié. Jésus, à la croix, adore, en esprit et en vérité. Donc si Jésus, à la croix, adore en esprit et en vérité, je puis moi-même adorer en esprit et en vérité. Et que mon adoration n'est vraie qu'en esprit et en vérité. Mais je reconnais, en tant que croyant, que l'adoration n'est pas lié à la foi. En tant que croyant. Et donc, je peux très bien comprendre cette expérience particulière de l'adoration indépendamment de la foi. Ça, c'est très important de le comprendre. Dans ma vie concrète, hein, dans ma vie concrète de croyant, c'est l'adoration en esprit, en vérité, dans le Christ, qui commande toute mon adoration. Je n'ai pas deux types d'adoration, celle du matin et celle du soir. Le matin, c'est le philosophe qui adore, et le soir, c'est le chrétien qui adore. Matin, oraison du philosophe, le soir, oraison du chrétien. Non, c'est pas encore arrivé ce règlement-là. Peut-être prochain numéro de règlement. N'est-ce pas ? On mettra une distinction comme ça. C'est peut-être. Mais là, à ce moment-là, je m'opposerai violemment en disant non, on n'a pas le droit de faire ça. Nous n'avons qu'une seule vie, notre vie chrétienne. Je n'ai pas une vie philosophique, je regrette. Il ne vous demande pas d'en avoir. La philosophie est au niveau de notre intelligence en vue d'aimer mieux. Et l'amour est unique, c'est un amour divin et surnaturel, qui ne supprime absolument pas l'amour humain, mais qui tout de suite l'assume. Dans l'expérience de l'amour d'amitié qu'on peut faire envers les religieuses, c'est tout de suite au niveau chrétien qu'on l'a fait, qui simplifie, qui purifie tous les passions. Je ne fais pas une expérience de l'amitié pour elle-même. Je n'aurais pas le droit. En tant que chrétien, je n'aurais pas le droit. Faire une expérience de l'amitié pour elle-même en tant que chrétien, elle aura fortiori en tant que religieux. Je n'ai pas le droit. Puisque je n'ai qu'une seule vie, ma vie chrétienne. Je vis au niveau chrétien. Je vis au niveau de l'agapé, de l'amour divin. Mais je sais, en tant que croyant, que mon intelligence n'est pas brisée à cause du péché. Et que mon intelligence a son développement propre dans l'ordre spéculatif et dans l'ordre pratique. Et dans l'ordre pratique, je sais qu'il existe une philosophie éthique qui s'enracine dans la réflexion sur l'amour d'amitié. Et j'essaie de comprendre maintenant qu'il existe une éthique religieuse qui s'appuie sur l'expérience de l'adoration. Pour moi, en tant que chrétien, mon adoration est toujours chrétienne. Mais je sais que mon adoration chrétienne assume parfaitement l'adoration de l'homme, de la petite créature que je suis. Et mon adoration chrétienne ne supprime pas mon attitude de créature. Vous voyez bien, c'est très important de comprendre ça. C'est très très important de comprendre que ma foi ne supprime pas ma nature humaine. Et si je disais que ma foi supprimait ma nature humaine, je serais hérétique. Et donc ma foi serait fausse. Et si ma foi me dit que mon intelligence humaine est, si au nom de ma foi, je dis que mon intelligence humaine n'est plus bon à rien, à ce moment-là, ma foi n'est pas suffisamment droite et suffisamment purifiée. C'est celle de Luther. Il y a toujours un danger de tomber dans la foi de Luther, vous savez. Du côté occident comme du côté de l'Orient, bien que Luther soit typiquement occidental. Hein, typiquement, ça c'est sûr. C'est un phénomène occidental. L'Orient a l'immense avantage de ne pas avoir eu Luther. Ils en ont eu d'autres. C'est vrai, ça c'est. Mais c'est quand même un avantage. Le phénomène protestant n'est pas un phénomène de l'Orient. C'est un phénomène occidental. Ce serait très intéressant de bien comprendre ce phénomène comme un phénomène occidental et pas du tout oriental. Transplanter Luther du côté de l'Orient, ça va pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est important de comprendre ça. Alors, comprenez bien, quand je parle de l'expérience de l'adoration, j'en parle de mon expérience. Quand j'adore, j'adore avec Jésus. J'adore jamais seul. J'adore avec Marie. J'adore sous le souffle de l'Esprit Saint, avec le don de piété. Et c'est pour ça que j'adore en esprit et en vérité. Et quand je fais mes actes d'adoration durant la journée, j'adore en esprit et en vérité, avec Jésus, porté par lui, porté par Marie. Mais je sais que je peux réfléchir sur cet acte d'adoration et comprendre que cet acte d'adoration avec Jésus assume un acte d'adoration au niveau humain. Et cet acte d'adoration au niveau humain se fait dans la lumière de la sagesse en tant que je suis une petite créature. Je ne peux pas adorer Dieu sans comprendre que je suis une créature. C'est pour ça que, vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est pour ça que l'adoration me fait comprendre l'éthique religieuse. L'acte même d'adoration me fait entrer dans l'éthique religieuse. Qu'est-ce que c'est que l'éthique religieuse? C'est l'éthique de la créature raisonnable. C'est l'éthique de la créature qui reconnaît sa dépendance radicale à l'égard de Dieu. Autrement, il n'y a pas d'éthique religieuse. C'est la différence de l'amitié. Je peux avoir une amitié sans reconnaître que je suis une créature. Et ça, c'est vrai. Quand vous aimez votre ami, vous dites « Je t'aime parce que tu es une belle créature de Dieu. » Non, je t'aime parce que tu existes, c'est toi. Je sais très bien que moi, en tant que chrétien, je t'aime plus profondément et je t'aime dans la lumière de Dieu, dans la lumière du Christ, mais je t'aime pour toi. L'ami, c'est un autre nous-mêmes. Mais je sais très bien que parce que je suis chrétien, parce que je suis religieux, mon amour d'amitié vis-à-vis de toi exigera certaines purifications très profondes pour que j'aime plus. Les purifications que réclame la vie religieuse, que réclame la vie chrétienne par rapport à l'amitié, permettent à l'amitié d'être plus elle-même. J'allais presque dire, seul le chrétien peut vraiment aimer d'un amour d'amitié. Parfaitement, j'ajoute tout de suite, parfaitement. L'expérience de l'amour d'amitié n'ira jusqu'au bout que grâce à ma vie de chrétien. Et j'ajouterai grâce à ma vie religieuse. Ma vie religieuse me donne cette supériorité extraordinaire. C'est du reste très grand quand on voit ça. Et quand on comprend ça, parce que quand on a compris ça, on ne peut plus marcher en arrière. Si je serais un imbécile, j'irais du parfait vers l'imparfait. Alors à ce moment-là, c'est la chute verticale. On a eu suffisamment de peine de monter, c'est pas la peine de dégringoler. Hein. Parce qu'après, on devra remonter. Et comme en dégringolant, je ne rebondirai pas, je serai dans la flaque d'eau pendant un certain temps, et j'aurai beaucoup de peine de me relever, parce qu'il y aura tout le poids de la boue. Voyez, cette position que nous essayons de comprendre, hein, elle n'est pas commode philosophiquement, parce qu'elle a été très peu dépouillée, dégagée. Où répète Aristote? C'est très bien de répéter Aristote, mais ce n'est pas philosophique de répéter Aristote. Il faut le vivre. Je ne peux pas vivre ce qu'Aristote a vécu, parce que je suis dans un climat de chrétienté. Tandis qu'Aristote était dans un climat de tradition religieuse païenne. C'est déjà extraordinaire qu'Aristote ait compris que Dieu était unique à la suite de Socrate, étant donné qu'il y avait l'Olympe. C'est déjà énorme d'arriver au Dieu unique dans un point de vue purement philosophique. C'est beau. Mais il ne pouvait pas aller plus loin. Nous avons ce privilège étonnant d'avoir la foi qui ennoblit notre intelligence et qui permet à notre intelligence de pouvoir très vite, et très très vite, se dégager d'une quantité de boue de tradition religieuse. Et en tant que chrétien, je quitte l'Olympe grec. C'est énorme. Et on peut dire, aux Grecs, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas et que moi je connais. La parole de saint Paul. Dans les Actes des Apôtres. Et alors, point de vue de l'adoration, puisque nous sommes là, point de vue de l'adoration, vous voyez, tout acte d'adoration présuppose une connaissance que nous sommes une créature de Dieu. Tout acte d'adoration regarde le Créateur. Or, quelles sont les connaissances que j'ai du Créateur? Première connaissance, celle qu'Aristote a, les traditions religieuses. Les traditions religieuses aboutissent toujours à affirmer un Dieu créateur. Zeus, hein, le dieu créateur grec. Mais vous pourriez prendre d'autres traditions religieuses. Hein. Je vous ai déjà dit, regardez Hésiode. La théogonie, les traditions religieuses grecques. Non, les premières traditions religieuses implique le Dieu créateur. À partir de ces traditions religieuses, il peut y avoir un acte d'adoration. Deuxièmement, on va y revenir. Deuxièmement, il y a une connaissance de philosophie. Philosophie première aboutit à la théologie naturelle, qui affirme l'existence d'un Dieu créateur. Troisièmement, il y a la foi chrétienne. Je prends la foi chrétienne, parce que c'est la foi la plus pure. Toutes les autres fois, quand vous prenez la foi musulmane, c'est pas pur à côté de la foi chrétienne. La foi chrétienne est seule absolument pure. Ça, on peut l'affirmer. En tant que croyant et en tant que chrétien, il faut en avoir le sens très très grand, et comprendre, alors, c'est pas bon de, quelquefois de le dire trop sur une trompette du jugement dernier, mais au-dedans de nous-mêmes, il faut en avoir la conviction absolue. Et on n'a aucune peur de regarder toutes les autres fois, parce qu'elles sont impures. Tandis que la foi chrétienne, elle est pure. Elle affirme le Dieu trois, la Trinité, le Dieu un, Créateur. Et que la création demeure fondamentale par rapport au mystère du salut, qui est le mystère du Christ. Et on distingue les deux. Et je maintiens la distinction des deux. Je sais que beaucoup de théologiens d'aujourd'hui ne veulent plus ça. Il y a 20 ans, 25 ans, j'assiste à un petit congrès philosophique à Rome de théologiens qui disaient ouvertement, je ne nomme pas, ce sont les théologiens actuels, hein, tous les noms des théologiens actuels. Ils étaient là présents et disaient ouvertement qu'il ne fallait plus parler de la création en théologie. Qu'il fallait parler uniquement de la rédemption. C'est très grave, vous voyez ça. Parce qu'alors on ne peut plus parler de l'adoration au niveau chrétien. Alors que textuellement, Jésus le dit à la Samaritaine. Le Père est esprit, il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et quand Jésus dit ça, il le dit à la Samaritaine, qui a une foi un peu branlante. Ça, on voit très bien, parce que ses mœurs ne sont pas absolument pures. Pour la Samaritaine, je ne fais pas de jugement téméraire en disant ça, n'est-ce pas? Donc ses mœurs ne sont pas absolument pures, et par le fait même, son adoration implique pas mal, hein, de poids plus ou moins net. Et Jésus dit, il faut des adorateurs en esprit, en vérité. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le philosophe dit que Dieu est esprit. Et donc le philosophe peut parler aussi d'une adoration en esprit et en vérité. Donc, vous voyez, il y a trois niveaux d'adoration. Et ça, je crois que c'est très important. Trois niveaux d'adoration. C'est la même adoration substantiellement. Mais il y a trois niveaux. Une adoration un peu branlante. Quand les stoïciens, ici je parle d'Épictète, quand Épictète parle de cette union avec la volonté de Zeus, vous comprenez ? C'est pas encore très pur, parce qu'à côté de Zeus, il y a tout l'Olympe. Et l'Olympe, il y a des quantités de choses qui ne sont pas très nettes. Mais quand même, il reconnaît que l'adoration la plus pure, c'est de se rejoindre à la volonté de Zeus. C'est quand même très beau. C'est quand même très beau de voir ça. Les traditions religieuses demandent d'être purifiées par la philosophie première. Et à ce moment-là, de comprendre que Dieu ne peut être qu'un Dieu unique. Et que le Dieu créateur, c'est le Dieu unique esprit, esprit pur. Dieu acte pur. Et donc, la création est une œuvre libre de Dieu. Dieu ne crée pas par nécessité. Et j'ai donc à ce moment-là une purification très grande de l'adoration par rapport à une adoration qui ne reposerait que sur les traditions religieuses. Mais cette adoration religieuse de la créature comme telle n'est pas encore l'adoration du chrétien. J'espère que vous voyez ça. L'adoration comme telle est un acte volontaire. J'adore quand je veux adorer. C'est un acte volontaire qui implique un amour. Je ne peux pas adorer Dieu en disant que j'ai de la haine pour lui. L'adoration, c'est le premier amour religieux. Un acte volontaire, c'est le premier amour religieux. C'est un premier amour qui implique tout de suite une intention. Je regarde le Dieu unique comme créateur. Et je choisis ce Dieu unique comme étant celui qui est pour moi source de ma vie. Vous voyez, l'adoration implique donc un amour, une intention et un choix. Mais c'est vrai, chaque fois que vous adorez, il y a toutes ces dimensions-là. Et comme ça implique un choix et une intention, ça assume une connaissance de Dieu et du Dieu créateur. Je ne peux pas adorer sans connaître le Dieu créateur. Je ne peux pas adorer en fermant les yeux. J'adore toujours en fermant les yeux. Mais les yeux extérieurs et les yeux de l'âme, la connaissance, impliquent qu'ils soient ouverts. Et si je ferme les yeux, c'est pour que les yeux de l'âme soient plus ouverts. N'est-ce pas ? Donc, j'adore en connaissant le Créateur. Mais d'une connaissance qui est ou uniquement la tradition, ou une philosophie qui ne supprime pas la tradition religieuse. Ou la foi. Bon, nous nous adorons avec la foi. La foi ne supprime pas la métaphysique et la théologie naturelle. Et elle ne supprime pas les traditions religieuses. Vous adorez dans un certain climat oriental ou occidental. Et c'est pour ça, quand on va sur la Lune, on emporte l'atmosphère. Et quand l'Orient vient dans l'Occident, il faut qu'il maintienne son climat. C'est nécessaire. Ça ne peut pas être autrement. Oui. Parce qu'autrement, il perdrait son climat oriental avec l'Occident. Ce serait très mauvais. Je ne crois pas à une espèce de syncrétisme, je crois à une espèce de rencontre très pure, très loyale, très respectueuse, du fait qu'on a un climat de prière, on a des traditions. Et les traditions religieuses sont différentes de l'Orient et de l'Occident. Et je ne crois pas qu'on pourra faire l'unité dans les traditions. C'est impossible, parce qu'elles ont existé avant nous. Il y a l'unité métaphysique. Ah oui, ça, je ne crois pas qu'il y ait une métaphysique de l'Orient et de l'Occident différente. Je ne crois pas. Il y a l'unité métaphysique. Et c'est seule la métaphysique qui peut faire l'unité. En respectant la diversité. Et la métaphysique, elle est au service de la foi et elle purifie les traditions. Et elle respecte la diversité des traditions. C'est le propre de la métaphysique, c'est de respecter le conditionnement humain dans lequel je suis. Oui, comme c'est important d'étudier ce que c'est que l'adoration, parce que tout de suite, je vois tous les conflits qui peuvent exister et je vois en même temps la grande harmonie qui peut exister. C'est le mystère de l'adoration. Alors, je reviens à la petite objection de tout à l'heure. Pourquoi Aristote, si intelligent, si pieux, Aristote est pieux, il reconnaît qu'il faut la piété. Je ne dis pas que c'est un modèle de piété. J'avoue que quand je prie, je ne pense pas beaucoup à Aristote. Je ne sais pas si vous pensez à Aristote, je ne sais pas si... Demandez à Aristote de venir vous aider à prier. Quand je fais de la métaphysique, je pense beaucoup plus à Aristote. Quand je fais de l'éthique, j'y pense aussi. Mais je vois qu'en éthique, il y a certaines précisions qu'Aristote n'a pas données. Tandis qu'en métaphysique, il y a très peu de précisions qu'Aristote n'a pas données. C'est curieux, ça. C'est très, très curieux. Je corrige plus Aristote en éthique qu'en métaphysique. Il y a là un problème qui est très très intéressant parce que ça montre comment la métaphysique est au-delà de l'Orient et de l'Occident. La Grèce étant le lieu de rencontre de l'Orient et de l'Occident. Comme le Liban est le lieu des liturgies chrétiennes orientales et occidentales. Il y a une analogie là. C'est vrai, ce sont ces points particuliers. Que Dieu a permis, qui sont des lieux de rencontre. Alors, comprenez bien qu'Aristote est quand même très proche des traditions religieuses. La métaphysique, Aristote la découvre, mais c'est difficile. Alors, sa métaphysique aurait dû lui permettre de parler d'une adoration personnelle. Mais le poids des traditions étant encore très fort des traditions religieuses, il ne parle de l'adoration qu'au niveau liturgique. Quand les traditions sont très fortes, on ne parle que d'adoration au niveau liturgique. Ça existe même au point de vue chrétien. C'est ça qui est très curieux. Quand le poids des traditions est tellement fort et que la métaphysique n'existe pas beaucoup, et que la foi est un petit peu diluée. Alors à ce moment-là, l'adoration ne se voit qu'au niveau liturgique. C'est une adoration de louange, c'est une adoration de demande, c'est au niveau liturgique, au niveau communautaire. Je comprends très bien comment Aristote ne parle pas de l'adoration en éthique. Il aurait dû en parler, mais il n'en parle pas. Parce que le poids des traditions religieuses est encore trop fort, et que la métaphysique n'est pas suffisamment forte devant ce poids des traditions. Et par le fait même, la seule chose qu'il voit au plan personnel, c'est la contemplation. Oui. Parce que la contemplation permet à montrer qu'il n'y a pas de contemplation liturgique. Vous voyez, dans quel sens je veux dire ? Il y a une prière liturgique, mais la contemplation est au-delà. C'est toujours quelque chose de personnel, la contemplation. C'est mon lien direct avec Dieu. C'est mon lien avec Dieu-Esprit. Alors il parle de la contemplation, mais l'adoration pas. Pourquoi ? Parce que l'aspect affectif de l'adoration n'est pas suffisamment libérée des traditions religieuses. Je crois que c'est ça.